Tout pour investir, le déchiffrage.
Eh oui, encore une fois ce phénomène de granularité. Félix Baron du Club des investisseurs indépendants, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et bonjour à Christian Fontaine du magazine Le Revenu.
Bonjour Antoine.
On va peut-être commencer par là. C'est vraiment le retour de balancier express autour de l'industrie des semi-conducteurs. Donc on le répète ce matin, la bourse de Tokyo, forte baisse, la bourse de Séoul qui a dû activer ses freins, alors qu'on avait un retournement de tendance très violent sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Et notamment SK Hynix, qui est passé lors de la séance d'hier devant Samsung en termes de capitalisation. Bon, c'est vraiment toujours la très forte dynamique des puces mémoire. Est-ce que le paradigme change ou est-ce qu'on est sur des prises de profit massives par bloc quand on passe des seuils symboliques comme ça a pu se passer hier? On a l'impression que c'est un phénomène de retour de balancier assez net. Et puis surtout, encore une fois, cette granularité, c'est-à-dire... Je te vends les semi-conducteurs, je rachète les logiciels. Vous voyez, avec toujours ce... On en parlera d'ailleurs en fin d'émission de ce souci autour de ces tendances disruptives que l'IA a, réelles ou supposées, sur le secteur des logiciels. Enfin, encore une fois, la tech, c'est granuleux, on va dire, Félix.
C'est granuleux, ouais. C'est surtout disparate. C'est ça qui... Et la journée d'hier, en fait, à Wall Street, surtout sur le Nasdaq, Elle a été représentative de...
Super parlante, ouais.
De ce qui se passe dans la tech en ce moment. Et c'est passionnant si vous voulez suivre un portefeuille ou suivre les bonnes actions dans la tech. On commence par les semi-conducteurs. Mmh. Bain de sang, hein, excusez-moi l'expression, sur l'économie des semi-conducteurs hier.
Ça a été violent.
Pourquoi ? Parce que, en fait, au bout d'un moment, le marché a fini par se dire... Et c'est l'exemple de ARM Holdings qui a pris le plus cher avec moins 7,2% en une séance. Il faut revenir quand même à il y a longtemps pour voir une telle baisse en intraday. Elle était tellement valorisée qu'au bout d'un moment, vous avez quand même le marché qui se dit bon, il y a quand même AMD et Intel aussi qui existent, qui sont capables de faire des semi-conducteurs. Le marché des smartphones, là, il est saturé. Hein, globalement, on n'est pas en rupture de stock sur les smartphones, tout va bien. Ouais. Et puis, sur le marché des serveurs, je vous dis, il y a quand même la concurrence d'autres acteurs qui sont historiques, comme AMD et Intel. Donc, hier et en ce moment, il ne faut pas être trop sur les semi-conducteurs parce que ça corrige. Il ne faut pas non plus être trop sur le spatial un peu fourre-tout. Et on y va sur si on refait la séance d'hier sur SpaceX, ça commençait par SpaceX.
Ce matin, vous avez vu le cours en avant-marché et sous son premier cours de cotation lors de l'introduction en bourse, on est à $148 désormais.
Moi, j'étais là il y a deux semaines, j'ai dit ce que je pensais de l'IPO de SpaceX.
Oui, oui, oui.
Je me suis pris des centaines de commentaires sous la vidéo et je les accepte avec beaucoup de plaisir. Mmh. C'est toujours bien d'avoir raison avant le marché. Moins 17% hier, quelle surprise ! Lever 75 milliards de dollars à l'IPO, en fait, ça ne suffit pas, parce que hier, si ça a autant baissé, c'est qu'on a appris que SpaceX est en train de préparer une émission obligataire de 20 milliards de dollars. Pourquoi ? Pour financer, non pas une acquisition, pour financer les coûts liés à l'intégration de xAI. Donc, on est en train d'intégrer dans SpaceX une boîte qui ressemble à l'écosystème SpaceX, à l'écosystème, puisqu'elle a été créée par Elon Musk, et ça coûte 20 milliards. Donc, il y a une énorme alerte, en fait, à ce qu'on appelle le cash burn, et à l'argent que ça coûte d'aller lever 20 milliards, parce que vous en parliez il y a 5 minutes. Le 10 ans aux États-Unis, ça coûte 4,48. Vous rajoutez à ça une prime de risque. Aller lever 20 milliards à au moins 5,5%, ça coûte 1 milliard par an. Donc, alerte au cash burn.
Voilà.
Sur SpaceX, on peut dire que les fusées décollent. En tout cas, là, en ce moment, elles atterrissent. Heureusement, elles atterrissent sans exploser grâce à Musk. Bain de sang aussi sur Alphabet, qui a pris un crochet du droit plus un uppercut. Moins 5% hier. En fait, il y a eu deux annonces. Alors là, c'est vraiment... C'est pas lié au secteur. C'est vraiment coup de malchance pour Alphabet. La justice californienne qui a dit qu'elle annulait, elle refusait d'annuler le procès qui était intenté pour addiction de YouTube chez les mineurs. Donc, le problème existe, mais ce qui fait peur au marché, en fait, c'est les provisions à passer en prévision donc, de potentielles amendes colossales sur un procès comme ça.
Et plus... puis, il y a la fuite des cerveaux aussi.
Et voilà, et le départ donc, de Noam Chaser et de John Jumper qui sont partis, c'était les deux, en gros, deux des pontes de l'IA chez Alphabet et qui partent chez OpenAI et chez Anthropic. Ça la fout un peu mal pour Google. Ensuite, vous avez eu Oracle, moins 5%. Là, c'est sanctions générales, et Amazon et Microsoft, c'est pareil. Hein. Sanctions générales sur tous les modèles qui sont liés au cloud, parce que là, c'est pas tellement qu'ils étaient survalorisés. Microsoft, on peut pas dire qu'elle soit survalorisée. C'est juste que il y a des dépenses d'infrastructure énormes par rapport à un ROI, donc un retour sur investissement des modèles d'abonnement cloud IA, qui pour l'instant ne se font pas tellement ressentir par chiffre d'affaires. Et c'est encore un sous-problème du secteur de la tech qui est très important. Ouais. Est-ce qu'on peut facturer le cloud IA à l'abonnement, donc tu me dois 400 balles par mois, ou est-ce qu'on doit le facturer au coût d'inférence et à l'utilisation réelle de la puissance de calcul? Ou là, on rentre dans la granularité, comme vous disiez, c'est très différent. Donc, attention au cloud et au serveur, c'est nécessaire, c'est des coûts d'infrastructure, mais le ROI reste à attendre. Et alors, celui qui n'a pas de chance, c'est Broadcom, la victime collatérale par excellence. Elle a perdu 5%. Ouais. Parce que quand vos clients comme Google, Microsoft, Meta prennent l'eau, bah, la bourse, elle estime que vous êtes trop proche. Et elle panique. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la bourse retrouve un peu la raison. Il y a des réflexes d'analyse fondamentale qui reviennent. Tiens, si on regardait quand même la valeur de ce qu'on a acheté, si on regardait la perspective du ROI, si on regardait si c'était pas trop déconnecté, est-ce que les coûts d'intégration de SpaceX sont raisonnables ? La réponse, elle a été donnée hier. Mais dans la même journée, là, j'ai présenté des boîtes qui avaient perdu beaucoup. Vous avez Micron qui prend plus 6,8%, SanDisk plus 5,5% et Intel plus 5,2%.
Et on est dans le même secteur.
C'est fou. Hein. C'est rare de voir une journée où le Nasdaq évolue de manière aussi disparate. Ouais. Micron, pourquoi ils prennent 7%? Parce qu'on est toujours dans le super cycle de la mémoire. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saturation et de rupture de stock sur la mémoire HBM.
Et puis on achète un peu à crédit aussi les résultats qui doivent tomber demain soir de mémoire.
J'en parlais hier avec Mathieu Céron qui vient souvent ici. Ouais. Micron à bientôt 1 200 $, et la première fois qu'on en a parlé ici, c'était en décembre, à 220 $, elle est encore pas chère en termes de multiples de forward
sur le PER. Ouais.
Voilà. Donc, elle a annoncé, en plus de ça, un partenariat avec Anthropic pour devenir le fournisseur officiel. Dans le même temps, vous avez SanDisk qui fait de la mémoire flash sans laquelle la HBM ne marche pas, donc les deux ont flambé. Et puis alors, Intel, moi, c'est celle-là. Je finis par Intel qui représente le mieux la journée d'hier, en fait, c'est la rotation value. C'est le dinosaure qui se réveille. Les capitaux des investisseurs fuient ce qui était survalorisé ou qui était douteux en termes de rentabilité. Et on revient sur la bonne vieille Intel, qui a des actifs tangibles, qui est rentable depuis très longtemps.
Qui est couvée par le gouvernement américain.
Qui fournit des puces PC classiques traditionnelles sur lesquelles il n'y a pas des coûts d'infrastructure énormes. Et qui en plus a des progrès dans sa division de fonderie. Donc Intel, c'est le retour minoritaire, mais ça commence vers une allocation un peu plus value sur le marché de la tech. Donc, pour tous ceux qui suivent et qui ont des portefeuilles, soyez sélectifs, à l'image de la journée d'hier à Wall Street.
Pas facile, parce qu'au milieu de tout ça, Christian Fontaine, et moi je me rappelle les étés qui commencent en bourse, ça commence toujours par un coup de mou, et ensuite arrivent des événements un peu extraordinaires. Alors c'est vrai que là on a la tourmente politique au Royaume-Uni, on a des inquiétudes très fortes autour de l'Allemagne. On voit qu'au Japon ça va pas super bien non plus, notamment à cause de considérations monétaires. On a vu il y a quelques années que c'est aussi du Japon de temps en temps que peuvent venir les coups de mou. Et puis on a ces brusques retournements de balancier là sur les marchés qui sont très très violents sur des secteurs qui intéressent beaucoup les investisseurs qui veulent s'y exposer. Voilà, est-ce que l'été qui commence à peine là s'annonce plein de turbulences, et est-ce qu'il faut garder l'œil dessus?
Alors oui, bien sûr. Et en fait, toute la question est de savoir si ce coup de grisou sur les microprocesseurs qui est quand même entraîné et qui entraîne à l'heure actuelle une baisse de l'indice MSCI Emerging Market de quelques 5% depuis le début de la journée. Est-ce que ce coup de grisou est le signe avant-coureur d'un retournement plus important et dont il faudrait se protéger? Je pense qu'il faut prendre un peu de recul. On est quasiment fin juin. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du premier semestre? En fait, les marchés ont été d'une résilience incroyable. On a eu deux chocs quand même géopolitiques majeurs. Vous avez eu le Venezuela. Alors, c'était tout le début du mois de janvier, dans la nuit du 2 au 3 janvier. Et ensuite, vous avez eu le 28 février, le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et face à ça, quand on fait un peu le bilan, fin juin, on se rend compte que peu ou prou, tous les grands indices sont à la hausse, hein, autour de 10% pour Standard & Poor's 500. Vous pouvez même rajouter 2 points de hausse du dollar pour les investisseurs en euros. Ça fait des gains non négligeables. Quant à l'Eurostock 600, il est autour de 6-7% de hausse. Donc, c'est aussi très bien. Donc, on a un tout petit peu l'impression que les marchés disent, même pas peur, les marchés de ces dernières années ont quand même encaissé des chocs absolument phénoménaux. Hein. Il y a eu l'Ukraine, il y a eu le Covid, et pour autant, les entreprises sont résilientes. Est-ce qu'on peut penser que ça va continuer comme ça, ad vitam aeternam ? Ben non. Et donc effectivement, souvent l'été, il y a moins de volume, il peut y avoir des déceptions. Alors, je voudrais d'abord revenir sur un point précis. La hausse des marchés, elle n'est pas si concentrée que ça. Avant de venir, j'ai regardé le Dow Jones, avec quand même 20 valeurs sur 30 qui sont à la hausse depuis le début de l'année. Standard & Poor's 500, 300 sur 500. Le Nasdaq, 55 sur 100. Donc, ce n'est pas si concentré. En tout cas, c'est moins concentré qu'on ne le dit. Ça n'empêche que la prudence s'impose quand même. Au cours du premier semestre, ça a été un premier semestre très très volatile, et le pétrole a bien progressé, et donc Total a bien progressé. Par contre, le Thalès, vous savez, c'était, je vous disais depuis plusieurs mois sur cette antenne, il y a deux valeurs, je dirais, un petit peu contracycliques sur la place de Paris. Vous aviez Thalès et Total. Total, ça a bien fonctionné, Thalès, non. En fait, on a vu au cours du premier semestre que les valeurs de défense étaient quand même bien valorisées, et que même, je dirais, s'il pouvait y avoir une conjoncture géopolitique porteuse, les arbres ne montaient pas jusqu'au ciel. Alors, vous parliez des vacances, je dirais qu'en ce moment, il y a quand même, au revenu, on aime bien la règle CDR, cash, diversification et rééquilibrage. Alors, cash, oui, je pense très sincèrement. Alors, il ne s'agit pas de vendre toutes vos positions, mais se constituer progressivement sur les lignes sur lesquelles vous êtes en gain. Je pensais notamment à la défense, une poche de liquidité à hauteur de 5 ou 10% pour vous renforcer et revenir sur les marchés en cas de baisse autour de 20%, voire davantage.
D'autant que le cash, vu l'orientation des taux, il va commencer à rapporter un peu plus.
Ah, il commence à rapporter, tout à fait. Alors, le cash dans certaines enveloppes, c'est notamment le PEA, c'est un tout petit peu plus difficile pour le valoriser. Mais oui, il y a des solutions et c'est possible. Donc oui, prendre une petite poche de cash qui rapporte plus qu'auparavant. Alors, la diversification, vous allez me dire, c'est un peu la tarte à la crème. Oui, mais tout le monde, bien sûr, comprend ce principe de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais tout le monde ne l'applique pas forcément bien. Moi, je ne vais pas réinsister sur la diversification géographique ou sectorielle. On en parlait il y a quelques minutes. Moi, c'est la diversification en devises qui, me semble, est absolument clé et n'est pas assez, importante ou insuffisamment mise en œuvre historiquement en France, alors qu'elle l'est beaucoup plus dans des pays comme la Suisse ou comme le Luxembourg.
Mais vu les mouvements sur l'euro-dollar, par exemple, oui, c'est peut-être pas inutile.
Détenir une poche de 40% en dollars, ça peut faire tout à fait sens. D'ailleurs, de toute façon, le dollar s'est apprécié 2% depuis le début de l'année. Donc là aussi, vous avez profité d'une petite hausse et d'un gain supplémentaire pour vos investissements en actions américaines. Vous avez la livre sterling aussi, qui est quasiment à un point bas depuis 2008, voire même hors 2008-2009, c'est un point bas depuis 2000. Là aussi, c'est la possibilité de jouer à terme la revalorisation de la livre sterling. Ça ne se passera peut-être pas au cours des 3 prochains mois, mais à terme de 4-5 ans, moi, il me semble que c'est porteur de sens. Et puis, vous avez toujours le franc suisse. Alors là, ce n'est pas le même scénario. C'est une progression régulière depuis 20 ans, mais quand même des belles pharmaceutiques qui, là aussi, peuvent être mises en portefeuille. Mais attention, on est sur une perspective de long terme et l'indice, le MSCI Switzerland, même avec la valorisation du franc suisse, ça vous fera jamais que du 7 ou 8%. Moi, personnellement, c'est déjà pas mal sur longue période. Et le dernier point, c'est avant de partir en vacances, regardez quand même le rééquilibrage. C'est le principe, c'est de revenir à la fin de la période sur votre allocation d'actifs du début d'année, donc la répartition géographique et sectorielle. Alors, historiquement, j'aime pas trop, parce qu'en fait, ça revient à couper des positions qui sont gagnantes et à se renforcer sur des positions qui sont perdantes. Donc, prudence, mais il y a quand même des règles à respecter, pas plus de 15% sur une ligne, en tout cas, nous, c'est ce qu'on dit au revenu. Mm-hmm. Et la tech, bien sûr, 100% la tech, mais si elle dépasse plus de 20% de votre portefeuille. Donc prudence. Voilà. Donc un premier semestre passionnant, mais quand même un premier semestre où il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés. Et là, aujourd'hui, à quelques jours des vacances, prendre une partie de ces bénéfices à hauteur de 5-10%, moi, me semble cohérent d'ailleurs avec une stratégie de long terme.
Félix, il nous reste une minute. On va dire aussi, ouais, peut-être quelques mouvements, quelques arbitrages de prudence, bon, avant un été qui sera nécessairement turbulent. Hein. On le voit, ça commence déjà très fort.
À voir. Ce qui est sûr, c'est que Christian a raison. En fait, si vous voulez investir comme en suivant les mouvements des opérateurs de marché qui sont professionnels, gérants de portefeuille, gérants de fonds, gérants de hedge fund.
Voilà, déjà, on oublie les vacances.
Eux, ils ont des trimestriels à délivrer au 30 juin. C'est ça. Ils seront payés sur leur performance trimestrielle. Donc, c'est normal qu'il y ait des mouvements de débouclage, ouais, de liquidation, ouais, de blocs d'action massives. Et c'est pour ça que ça baisse aussi, qu'il y ait des prises de bénéfices. Ils sont en train de vendre, ils sont payés au trimestre. Donc, ça c'est, on l'observe, c'est parfaitement normal. N'oubliez pas non plus qu'on est dans ce qu'on appelle un peu le creux trimestriel. Les résultats qui ont été annoncés, les derniers trimestriels, c'était il y a un mois, les premiers, il y a un mois et demi. Les prochains, c'est dans un mois et demi, fin août pour certains. Donc, le marché qui pense pas à court terme ni à très court terme, mais à ultra court terme, là, il est un peu perdu en ce moment. Il a plus rien à se mettre, il a plus d'os à ronger pour se dire sur quoi je pourrais aller spéculer pour battre les attentes.
Ça manque un peu de carburant.
Ouais.
Voilà, donc c'est la technique. Ouais.
À partir, on va commencer à avoir les premiers résultats des grosses à partir de fin juillet, début août. Et là, ça va repartir. Je pense qu'avec la libération du détroit d'Ormuz, on a quand même... Bon, on n'est jamais à l'abri d'un nouvel imprévu au niveau géopolitique mondial, mais on a quand même 3 mois de tranquillité devant nous.
Bon, c'est déjà ça, mais ça peut être aussi l'occasion de refaire un petit peu le point sur sa stratégie. En tout cas, merci beaucoup, Félix Baron, Club des investisseurs indépendants, Christian Fontaine, merci. Du magazine Le Revenu. Vous revenez dans quelques minutes nous parler de patrimoine et de jeunesse. Comment on commence, comment on fait fructifier